Je pénètre dans la grande salle du TJP. C'est ici que se déroulent les répétitions de Moby Dick par la compagnie Plexus Polaire. Sur le plateau, il y a un ventre de baleine qui peut devenir un bateau, un capitaine qui motive son équipage du haut du pont ou des marins qui dépècent une baleine. Le spectacle est une adaptation du roman Moby Dick, paru en 1851 d'Herman Melville, dans lequel l'auteur s'inspire de ses souvenirs d'anciens baleiniers. Ingvild Aspeli, metteuse en scène de la pièce, me raconte sa rencontre avec Moby Dick.
Je pense que ma première rencontre avec une baleine, c'est quand même Moby Dick. C'est Herman Melville qui me l'a fait visionner, qui m'a fait voir ce, ou découvrir vraiment la baleine. Je pense que c'est du coup, même si on en mange et qu'il y a encore la chasse à la baleine en Norvège, c'est quand même un sujet un petit peu tendu. Du coup, c'est souvent lié à ce débat autour de ça. Mais je pense que là, vraiment, la découverte de la vie de la baleine, c'est Herman Melville qui me l'a fait découvrir.
Moby Dick, d'Herman Melville, c'est l'histoire d'Ismaël, qui, attiré par la mer et le large, s'embarque sur un baleinier commandé par le capitaine Ahab. Très vite, Ismaël se rend compte que le capitaine Ahab cherche à se venger d'un cachalot blanc qui lui aurait arraché la jambe par le passé. Moby Dick, c'est donc le récit de ce voyage à la recherche du cachalot. Pendant qu'Ingvild Aspeli, à la manière d'un capitaine de bateau, investit la scène du TJP avec son équipe, un autre artiste plasticien, Vincent Chevillon, continue de son côté à chercher son Moby Dick. Quelle rencontre cet artiste a-t-il pu faire en mer ou sur terre? Comment Vincent Chevillon, à la manière du capitaine Ahab, mène-t-il sa recherche de baleine?
En 2010, j'ai fait le choix de remettre ma pratique artistique en question. Après une longue année de recherche, je l'ai redéfinie sur une pratique s'appuyant sur différents savoirs, s'intéressant notamment aux récits rapportés ou projetés sur les ailleurs. Il s'agissait pour moi de déconstruire un certain nombre de mythes, de les explorer, d'y faire pousser de nouvelles graines. J'ai commencé par décomposer un objet et de partir des ramifications qu'il me proposait pour engager une enquête qui me poursuit désormais depuis 10 ans. L'œuvre en question a été le livre Moby Dick d'Herman Melville. Ce projet a rapidement pris le nom de Sperm Whale's Dream, que l'on a traduit par « rêve de pêcheur de cachalot ». Je n'ai jamais été vraiment satisfait par cette traduction, notamment parce que le terme « sperme » disparaît, mais également parce que j'aime l'ambiguïté de ce néologisme, sur ce qu'il désigne. Par ailleurs, il y a quelque chose qui me touche dans l'œuvre de Melville, et dans les expériences que j'ai menées depuis, c'est que l'enjeu pour moi n'est pas de chasser, mais de suivre le cachalot. C'est ce qu'il laisse dans son sillage qui me touche et nourrit mes rêveries. L'enquête que je mène actuellement nous conduit également à des créatures océaniques, des cétacés. Cependant, à la différence du roman de Melville, il ne s'agit aucunement d'une chasse, d'une traque. L'histoire en serait presque inversée, au sens où l'un des points de départ a été des retrouvailles, avec des ossements étalés sur les planchers des combles d'un musée strasbourgeois. Comme prononcé auparavant, j'avais photographié ces restes quelques années auparavant, entassés dans une salle obscure. Ils étaient cette fois-ci étalés sur un plancher, dans une tentative de reconstitution anatomique. Il y avait là quelque chose de fascinant, à voir échouer dans des combles poussiéreuses des baleines. Je collectionne depuis presque 10 ans des images de cétacés échoués. La corrélation était surprenante. Nous étions projetés au fond des mers, sur le plancher océanique, baignés du silence et de l'épaisseur du temps. Avec l'aide, entre autres, de Rose-Marie Arbogast, des personnes du musée zoologique, de l'équipe du musée zoologique qui est archéozoologue, ou encore Marie Meister, conservatrice, Antoine Wagner, naturaliste et taxidermiste, ou encore de Samba Sousoko, qui est designer et qui produit de l'imagerie 3D pour des musées. Nous avons étudié ces ossements, cherchant la moindre singularité, les étrangetés morphologiques qu'elles nous proposaient. À partir des indices collectés, on a commencé et a commencé à germer, ça et là, des histoires sous forme d'hypothèses. L'état des os, leur usure progressive, les traces de graisse témoignent des parties submergées de l'animal, de celles exposées au soleil et au vent, des paysages s'esquissent, mais également des tentatives qui ont pu être faites pour nettoyer l'animal, etc. Si certains spécimens semblent entiers, d'autres présentent des complications. Sur certains os étalés apparaissent des graffitis, des dates, 1773 sur certains, sur d'autres la lettre majuscule B. Il semblerait que le squelette, notamment avec la lettre majuscule B, soit composite, une chimère, une escroquerie. Dans les archives du musée, une correspondance est retrouvée entre le directeur de l'époque, Oderlein, et un certain James Dahl, en Nouvelle-Zélande. De nouveaux horizons s'ouvrent à la lecture de ces lettres, nous permettant de géolocaliser le lieu d'échouage des deux spécimens, mais également d'ouvrir mon champ d'investigation.
Est-ce que Moby Dick existe vraiment ? Est-ce que le cachalot n'est pas uniquement dans la tête du capitaine Ahab ? Sur un bateau ou sous l'eau, peut-on ressentir la présence de créatures invisibles ?
Dans Moby Dick, il y a du coup tout ce qu'on on connaît tous, le capitaine Ahab, tout son équipage, toute la chasse à la baleine. Mais il y a aussi un élément qui, moi, m'intéresse beaucoup dans le roman, qui est Fedala. Et c'est Ahab qui, en secret, a amené tout un équipage de chasseurs, de stowaways, du coup des passagers clandestins, sur le bateau, et qui, du coup, sur l'heure de la première chasse, tout d'un coup, apparaît comme s'il apparaissait de l'air vide, sur le bateau, au grand étonnement de tout l'équipage. Et il y a surtout du coup Fedala, qui est le chef de ces harponneurs, chasseurs de baleines, qui est l'équipe sélectionnée spécialement d'Ahab pour tuer Moby Dick. Il a un pouvoir ou une relation très particulière avec Ahab. Et tout le long, ça reste quelque chose, une relation très mystérieuse et très... même il le décrit comme quelqu'un que les gens ne voient jamais clair ou seulement si c'est comme si c'est dans ses cauchemars ou un rêve. Du coup, il a quelque chose de déjà énigmatique, mais il a clairement une force ou un pouvoir sur Ahab et leur destin entre les deux. Et c'est pas que un qui contrôle l'autre, c'est comme vraiment qu'ils sont liés. Et on ne sait pas qui vraiment décide pour l'autre, mais c'est clair que leur destin est intimement lié. Et du coup, cet aspect-là, c'est quelque chose que j'ai du coup vraiment traduit directement aussi dans la relation entre l'acteur et la marionnette. Et pour que aussi l'acteur marionnettiste ait un vrai rôle qui est plus que celui d'un manipulateur et plus que de celui d'un personnage, mais quelque chose qui joue entre qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on ne comprend pas. Et que du coup, cette relation-là, c'est ce qui m'intéresse à creuser beaucoup dans le spectacle. Je suis très intéressée par ce qu'on ne voit pas, mais qu'on sent quand même. Et je pense que cette relation-là, du coup, permet de le rendre physique quelque part. Mais aussi, il en parle d'écrit de Fedala comme des ombres. Il le parle vraiment comme des ombres. Du coup, c'était un élément que j'avais envie de trouver une place pour cet aspect dans le spectacle.
Je suis des traces. Ces traces me mènent toujours plus loin. Si on parle de Moby Dick comme une forme d'appel, quelque chose que l'on suit, il résiderait dans des zones non décrites par les cartes, dans ces espèces de béances aveugles qui peuvent nos imaginaires. Pour moi, c'est un appel du vide, mais rempli de possibles, une quête qui me mène et me submerge aux confins du monde. Une forme de goût. Goût d'étendre ces fameux confins et de jamais les limiter. Quand je le prononçais avant, je marche, j'ai tendance à dire que je marche à la lisière et que je tends mes écoutilles. Il s'agit de se faire habiter tout en laissant le minimum de traces de mon passage et d'en rapporter des gouffres dans lesquels je me projette et j'espère qu'on puisse se projeter. Alors, je peux vous raconter un épisode du voyage entrepris durant cette année 2013-2014, quand j'étais à bord du C4C. Et notamment, donc, ça se passait lors de la transatlantique entre le Cap-Vert et les Antilles françaises. On avait quitté Mindelo depuis 3-4 jours, dans mon souvenir. L'océan était lisse, sans un souffle. Il faisait une chaleur étouffante à bord du navire. On avait un problème avec la sonde qui permet de mesurer la vitesse du bateau. Elle était sans doute bloquée par des algues, et donc elle nous faisait défaut. On avançait alors lestement avec un gros moteur diesel. À perte de vue, il faut imaginer l'océan, sans l'ombre d'un nuage, sans l'ombre d'un navire. Nous avions alors déjà pêché quelques dorades coryphènes. C'est souvent dans ces moments très calmes qu'on arrive à capturer, à pêcher des proies, quoi, quand le bateau va pas trop vite. Et on n'avait croisé aucun autre signe de vie depuis 2 jours. Le capitaine du voilier me demanda si je pouvais aller voir à l'embase de la coque ce qu'il en était de la sonde. Elle se situait à peu près à 2 mètres à l'avant sous la coque bâbord de notre voilier. Donc on arrêta le moteur, on m'attacha par la taille à une corde après que je me sois équipé d'un masque. Alors je descendis dans l'eau en prenant soin de ne pas jeter de coup d'œil en dehors de la coque. C'était sans doute plus par la peur du vide que celle de croiser une quelconque présence. Je suis donc la coque de cette mer d'huile, étrangement chaude et limpide. L'eau était très très claire. C'était vraiment curieux, il n'y avait aucune particule dans l'eau, elle était cristalline, quoi. Donc je plongea, je nettoyais avec une brosse la molette en question. Donc pas de coup d'œil vers les abysses. Puis je remonte, je suis calmement la coque du navire et je me dirige vers la poupe afin de remonter à bord, quoi. Et juste avant de sortir de l'eau, c'est à ce moment-là où j'ai jeté un vaste regard, j'ai pris le temps autour de moi, puis en dessous, dans le vide où je me baignais. Et en fait, là, c'est ouais, voilà, il y a eu l'immensité qui s'est offerte à moi et ça m'a glacé le sang d'un coup. Il n'y avait pas une présence de vie. Et d'un coup, je me suis senti aspiré dans le fond. L'eau cristalline m'ouvrait, je pense, à une nouvelle dimension que j'avais jamais ressentie. Je lévitais au-dessus d'un gouffre, mais vraiment infini. Le bateau s'était évanoui, la corde. J'étais dans une espèce de surdité, quelque chose qui vibrait en moi, quoi, sans doute une forme de peur. Il y avait une perte totale de repères, qui m'enivre encore d'ailleurs. Et j'en rêve. Souvent, je me réveille souvent, quelque chose qui m'envahit comme à la fois une fascination occulte ou une forme de torpeur. Donc une fois à bord, une fois remonté, on me demanda si ça avait été. Alors j'ai acquiescé et je me suis remémoré un mot qui avait été prononcé par mon frère lors d'un épisode un peu du même genre. Transit froid, il m'avait répondu profond.
Quelles images avons-nous des baleines? Un monstre qui inspire de la crainte ou de la peur? Une espèce menacée, inspirant affection et pitié. Vincent et Ingvild s'interrogent chacun à leur manière sur les différents caractères auxquels renvoient les baleines.
Parce qu'il arrive tellement à nous faire presque voir de leur point de vue. Il est tellement en empathie avec les baleines et il décrit d'une telle manière leur relation et comme sensation de groupe et de comment il y a la société là, tout au fond de la mer. Et il fait ça avec une telle simplicité et en même temps un tel amour pour ces grands bêtes mystérieux que c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré l'attention. Et du coup, j'ai commencé à chercher autour des cachalots, évidemment, aussi en créant le spectacle, des recherches autour de ces animaux qui sont vraiment fascinants et ils sont une, et je pense que ce qui me touche beaucoup avec eux aussi, c'est comme ils sont une vraie sensation d'empathie. Ils sont une vraiment, c'est des animaux empathiques et ils sont surtout les femelles, mais ils sont vraiment comme protecteurs de l'un et l'autre. Ils sont leur côté communauté.
James Dall a remis un certain nombre d'informations très précieuses, bien que parfois douteuses, quant à la détermination de l'espèce, des spécimens, cite la présence d'un autre cétacé, lui à l'époque encore vivant, un fameux Pelorus Jack. Pelorus Jack, une baleine pilote, non pas de l'espèce de ces globicéphales qui s'échouèrent encore fréquemment en masse sur les plages néo-zélandaises. Pelorus Jack serait un dauphin de réseau. mais en tant qu'escorte qui ferait de lui une personnalité locale, au point où il serait l'une des premières créatures marines à être protégée par une loi d'État, et que le London News en fera une première de couverture d'un article pour le 24 décembre 1910. Étrange coïncidence de l'apparition de ce dauphin guide en lieu et place des échouages. D'autant que celui-ci aurait été blessé par balle par l'un des marins du ferry du SS Penguin. Certains racontent que dès lors, il n'aurait plus aidé ce bateau et que celui-ci s'échoua en 1910 et causa la mort de 75 personnes. À propos d'échouages, les restes de l'un des cétacés auraient été récupérés, une Berardius arnursi, sur la longue plage située à l'extrême nord, Golden Bay, de la grande île du sud de Nouvelle-Zélande, et qui est devenue tristement célèbre par des échouages massifs de cétacés, notamment ces dernières décennies. En fouillant durant le confinement dans les méandres du web, j'ai pu eximer dans les archives numérisées d'un des villages de cette côte des photographies anciennes. Parmi elles, celle d'une Berardie, échouée sur une plage, en arrière-plan un homme avec un chapeau, et qui semblerait une pelle. Comme titre pour cette image, Dale's Whale. D'autres indices prélevés sur les cétacés néo-zélandais du Musée Zoologique de Strasbourg tissent des liens étranges avec notre époque. Un journal enveloppant des bulletins paniques de Rorcal, sur lesquels apparaissent à nouveau la lettre P. Cela résonne curieusement avec ces histoires. Ce journal politique témoigne d'une prise de conscience du poids politique des ouvriers néo-zélandais et de l'influence de l'alcool et de l'illettrisme sur ces derniers. En sous-titre à ce prospectus, nous pouvons lire « Reform often fall, not for lack of merit, but for lack of hearing ». Les réformes se succèdent en vain, non par manque de mérite, mais par manque d'écoute. Quelles ivresses occultent notre entendement? Ce que cette enquête me prononce, c'est que le monde de la mer n'a jamais été silencieux que pour ceux qui ne savent pas prêter l'oreille. De la même façon, il s'agit pour moi aujourd'hui d'apprendre à écouter ceux qui n'ont pas ou plus de voix, celles et ceux qui ne parlent pas le même langage, humain et non humain, en inventant des dispositifs qui nous permettent de les entendre. C'est dans cette perspective de me porter à l'écoute de ces rumeurs que je me projette de rejoindre ces territoires prochainement.
Le squelette de baleine présent sur le plateau du TJP devient par moments la coque d'un bateau dans laquelle les marins viennent se réfugier. Est-ce qu'un ventre de baleine peut être chaleureux? Qu'est-ce qui peut être convivial dans une baleine?
En Norvège, la chasse à la baleine existe toujours et on mange toujours la baleine. C'est du coup une tradition qui date de longue date, on peut dire ça. C'est une ancienne tradition qui est encore maintenue, évidemment avec plein de règles de combien, quelle période, quel type de baleine, tout ça. Hein. Mais la baleine est toujours sur le menu en Norvège. Et c'est assez étonnant comme plat. C'est, pour être honnête, très très délicieux. C'est vraiment comme un steak rouge, c'est de la viande rouge, mais plus frais, avec vraiment les... on sent quand même que ça vient de la mer, que ça vient que c'est un peu côté plus frais, plus salé. Du coup, c'est assez étonnant. La Norvège n'est pas quand même connue pour son... pour la gastronomie, la Norvège. Et du coup, ça reste quand même assez souvent brut. Et du coup, mais par exemple, à Stamsund, là où on a créé du coup aussi Moby Dick, qui est un des partenaires en Norvège avec qui je travaille souvent, et il y a un des techniciens, Jan Erik, qui lui sert toujours à faire un barbecue avec des steaks de baleine, par exemple. Mais sinon, c'est souvent dans des... stews, comme avec une sauce, ou comme vraiment comme un steak, comme en même manière qu'on prépare le steak. Oui, je pense que c'est le Minke Whale, ça c'est un de ceux qu'on mange, et il me semble aussi que c'est l'autre, c'est Vågval, mais j'avoue que je ne connais pas le nom en français.
Merci à Moby Dick, Herman Melville, Ingvild Aspeli, la compagnie Plexus Polaire, Vincent Chevillon, Gouros Kousnesmou, Anne-Marthe Sorlien-Hollen, Havard Skasset, l'équipe du TJP et Radio Pratique.